Je suis très heureux aussi de pouvoir voir qu'avec le temps qui passe, eh bien, nous sommes des gens capables de s'adapter. Parce que ça, c'est quelque chose que Dieu nous demande. J'ai toujours eu une certaine idée de la vie que j'allais vivre avec le Seigneur dès le départ. Ça doit être mon petit côté un peu bizarre. Hein. Je me suis dit, voilà, ça va se passer formidable, ça va aller bien, tout ça. Je ne dis pas que ça ne s'est pas bien passé, mais ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Bien des fois. Et aujourd'hui encore, je me dis, finalement, Dieu est plein d'imagination. Il nous dépasse, mais ça vaut la peine de le suivre. Alors j'aimerais partager avec vous, en effet, un thème ce matin. Et je vais vous dire tout de suite que le thème que j'ai eu sur le cœur il y a quelques temps, c'est un thème qui m'a un petit peu parlé d'abord de tout un passé, parce que je vais vous parler d'un mot, au départ, qui me semble quasiment tabou dans les prédications que j'ai entendues des autres, et quasiment tabou dans mes propres prédications. J'aimerais vous parler du doute. Ça vous rassure, hein? Oui, parce qu'il y a une chose que j'ai réalisée en lisant la parole de Dieu, c'est que le doute existe. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler que du doute. Je vais dire, il y a doute et foi. Parce que nous savons bien que toute notre vie spirituelle est basée et ne tient que par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes agréables au Seigneur. Et ça se terminera, grâce à Dieu, par la venue du Seigneur dans la foi. Alors que tout cela soit vraiment très clair dès le départ. Mais, il est vrai aussi que nous pourrions nous interpeller sur les raisons qui font que parfois, dans une vie humaine, il y a un moment où le doute prend place. Je vais me servir tout de suite, j'aurai deux grands exemples, je vous dis tout de suite, je ne vous apprendrai rien, vous les connaissez bien ces exemples. Mais je vais prendre déjà le premier exemple qui est tiré de la Genèse, au chapitre 18, et je vais vous parler d'Abraham et de Sarah. Alors, je vais lire un passage assez long, mais je me suis dit, je ne peux pas faire l'économie, il faut vraiment qu'on repasse ça dans nos cœurs. Genèse chapitre 18 et verset 1er. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Je me permets de dire que je lis dans la version Semeur. Hein. Vous ne serez pas étonné si vous avez une autre version de quelques différences de mots. Il regarda et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite trois mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux trois hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?»« Elle est là dans la tente, leur répondit-il. » Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors, Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir ? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis ? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel ? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Saisie de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, » dit-elle. « Si, tu as bel et bien ri, » répliqua l'Éternel. Je m'arrête là. Bon, c'est un passage, je pense que vous le connaissiez, mais il m'impressionne. Il m'impressionne parce que, comme je le disais au départ, le doute peut nous paraître comme tabou, il vaudrait presque mieux ne pas en parler. En réalité, le doute fait partie du cheminement chrétien normal. Et c'est pour cette raison que le doute n'est pas une catastrophe. Mais ce qui est plus grave, c'est d'y demeurer qui pose problème. C'est ça le problème. Alors je vais essayer avec vous de parcourir ce que nous venons de lire, parce que mon but, c'est aussi de me dire, mais comment justement surmonter le doute ? Et je m'apercevrai à la lecture de ce passage et d'un autre que je vous citerai tout à l'heure, que pour surmonter le doute, il faut se recentrer sur la personne de Dieu. C'est la seule solution, j'y viendrai. En tant que chrétien, je l'ai aussi affirmé dès le départ, la foi est au cœur de notre vie. Nous avons commencé, nous grandissons, nous avons parfois tendance à croire que c'est avec une grande foi que nous avons arrivé à quelque chose. Je dirais que ce qui est formidable, c'est d'avoir une toute petite foi, mais qui soit vraie. Parce qu'avec ça, on fait des exploits, et c'est Dieu plus exactement qui fait des exploits pour nous. Alors, la foi est incontestable. Dans le récit que nous venons de lire, Abraham et Sarah, que nous avons lu à l'instant, moi, il me parle énormément, parce que nous rencontrons des êtres humains bien humains, mais avec leur grandeur et leur fragilité. Et vous savez, ce qui me réjouit, c'est que, sans vous connaître davantage, il y a de la grandeur et de la fragilité chez chacun de nous. C'est une réalité, il faut voir cela. Je préciserai tout de suite que, dans le chapitre 18... Nous avons vu ce passage extraordinaire où Sarah, entendant la définition qui est donnée, on va le comprendre au fur et à mesure du récit d'ailleurs, par Dieu lui-même, d'être pris d'un rire. Mais je vais en parler. Je crois que le mot rire aujourd'hui a surtout une connotation qui a beaucoup évolué et malheureusement d'ailleurs qui n'est pas en faveur du passage qui est là. Parce qu'il y a des rires gras, il y a des rires grossiers, il y a des rires pour n'importe quoi dans notre pays. Aujourd'hui, dans nos sociétés, d'une façon générale. Je pense que là, il faudra peut-être s'y arrêter. Maintenant, j'aimerais reprendre quelques éléments. Quand ces hommes arrivent, Abraham n'a pas conscience que c'est Dieu qu'il visite. Et il y a quelque chose que j'aimerais retenir. C'est que Dieu se présente lui-même, intervient lui-même, il vient à la rencontre d'Abraham à son insu. Parce que quand Abraham est là, assis devant sa tente à la chaleur du jour, il voit trois hommes. Et il va accomplir, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, non pas la démarche de quelqu'un qui croirait avoir affaire à Dieu, ou alors là, il serait dans un état de prosterné, de très particulier. Il va avoir à pratiquer l'hospitalité la plus extraordinaire, mais la plus vraie, qui existe de son temps. Parce que l'hospitalité, ça comptait. Peut-être encore plus qu'aujourd'hui, et on pourrait le regretter d'ailleurs, mais c'est comme cela. Non, Abraham reçoit des hommes et il va être... Alors, il y a une chose que j'apprécie, c'est que Dieu vient rencontrer Abraham à son insu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il n'y a pas que quand je donne des rendez-vous à Dieu qu'il se présente. Ce matin, je ne sais pas si on pourrait le dire, mais nous avons donné rendez-vous à Dieu à 9h30, rue Saint-Guillaume à Toulouse. Et on est tranquille, Dieu est là. Amen, Oui, si j'avais été en Aveyron, ça aurait été un petit décalage d'une demi-heure, mais j'aurais dit oui, on a donné rendez-vous, et ceux qui lui ont donné rendez-vous en Aveyron ont raison. Dieu est là. Dans tant d'endroits aujourd'hui, les hommes donnent rendez-vous à Dieu. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est lorsque Dieu vient percuter ma vie alors que je ne m'y attends pas. Et lorsqu'il arrive, je dirais, à mon insu, en somme. Je suis dans le monde, je travaille, je roule avec ma voiture, je fais des quantités de choses, et d'un seul coup, quelque chose m'arrête, oh mince. Et puis il m'a fallu un certain temps pour dire, mais c'est pas rien, c'est Dieu qui veut me parler. C'est Dieu qui veut dire et échanger quelque chose avec moi. C'est exactement la situation d'Abraham. Je vous la souhaite bien des fois, frères et sœurs. Dieu vient à votre insu, il se présente, et vous ne vous y attendiez pas. Que Dieu soit glorifié et béni. Dieu est plus grand, en effet, que nous. Nous avons nos temps pour Dieu, mais Dieu a son temps pour nous. Et c'est merveilleux. Voilà Abraham. Il va déployer une générosité immense, extraordinaire. À titre indicatif, j'ai voulu quand même aller voir ce que cela représentait. Il voit sa femme et il lui dit « Tu prends 3 mesures de farine ». Vous savez ce que ça représente, 3 mesures à l'époque biblique de fleurs de farine? 21 kilos de farine. On doit en faire des galettes avec ça. Je ne suis pas très connaisseur dans les galettes et la farine. Mais quand même, sur ce que je vois de ma femme quand elle fait des crêpes ou des galettes, elle n'utilise jamais 21 kilos, je vous le dis tout de suite. 21 kilos? Il l'a précisé, ce n'était pas 2 mesures et demie, c'était 3. Et puis, ce n'est pas tout. Il va voir dans son troupeau, il prend un veau gras. Il apporte au serviteur, il dit, tu l'apprêtes. Tu n'apprêtes pas une patte, c'est le veau. Je ne sais pas si vous imaginez qu'il y avait 3 hommes et lui qui a participé, qui est venu avec eux. Un veau gras pour 4 et 21 kilos de farine pour 4. Et comme ça ne suffit pas, on y ajoute du fromage et du lait. Il y a quelque chose qui m'impressionne dans l'attitude d'Abraham. Il est d'une générosité impressionnante. Il y a quelque chose chez Abraham, Dieu l'a béni, mais il est quand même assez extraordinaire. Et je me dis au fond, ce qui est formidable, c'est que ce jour-là, Abraham s'est comporté de la meilleure façon, de la façon appropriée qui correspondait bien à ce qu'il allait vivre. Moi, je ne sais pas si je dis, Seigneur, permets-moi d'être toujours dans la mesure appropriée lorsque tu viens me voir au moment où je ne m'y attends pas. Parce que la générosité d'Abraham a permis à ces hommes de se manifester pleinement, d'accomplir pleinement et librement le message. Abraham était quand même prêt, même à son insu. Ça, c'est une qualité extraordinaire, mes amis. Vous savez, on peut ne pas s'y attendre, mais il faut pouvoir être capable de dire, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, ok, je m'arrête, je suis là. Et ce ne sera pas un veau, un gras, ce ne sera pas 21 kilos de farine, mais enfin quand même, ça vaut la peine de se dire, tout le temps que tu veux, Seigneur, je veux être généreux dans ton accueil, dans l'écoute et dans tout ce que tu as prévu. Et Abraham va donc pouvoir... Alors, le récit, c'est quand même impressionnant. Nous le lisons en quelques minutes, quelques secondes presque. Et imaginez le temps qu'il faut pour apprêter un veau, le temps qu'il faut pour faire 21 kilos de farine et des galettes. Il s'est passé longtemps, mais ça fait partie de l'estime que l'on a à cette époque pour des visiteurs et dans l'accueil. On leur accorde du temps, parce que figurez-vous que plus on l'accorde du temps, plus on les respecte. Ça, c'est une chose que j'ai pu apprendre dans des voyages. Il y en a qui reviennent de pays d'ailleurs aussi, où c'est très vivant. Plus vous accordez du temps, plus vous respectez celui que vous recevez. Et Abraham, il savait accorder du temps, hein. C'est évident. Maintenant, il offrait aussi le meilleur. Parce qu'on voit qu'il n'a pas lésiné sur la qualité. Le meilleur. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu médiocres chez moi, figurez-vous. Mais apprends-moi de donner le meilleur. Vous êtes d'accord? Que Dieu nous apprenne. Le meilleur pour Dieu. Après, Dieu se chargera du reste, bien sûr. Alors, Abraham se comporte bien, mais dites-moi, avant d'arriver dans le détail qui va venir après, un peu croustillant, je sens que vous vous attendez que ça, il faut prendre un peu conscience de la situation. Abraham, à cette époque, c'est un homme remarquable, il a 99 ans. On comprend après pourquoi sa femme a une opinion sur son mari. Elle ne le dégrade pas, hein. Elle dit, c'est un vieillard. Qu'est-ce que vous en pensez, 99 ans. Sarah, elle, est beaucoup plus jeune. Elle a 90 ans. Eh oui, il faut prendre des fois conscience de la réalité. Hein. C'est à un homme et une femme de cet âge que le message de Dieu va s'adresser. Et puis, ce message, il n'est pas nouveau. Il y a déjà eu une promesse faite à Abraham. Et lui a été dit, tu auras un héritier. Ouais, savez-vous à peu près de combien de temps ? Un peu plus de 24 ans, on pourrait presque dire bientôt 25 ans. Un quart de siècle que Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir un héritier. Et Abraham y a cru. Sarah y a cru. Et j'imagine que tous les mois, ils ont cru à la bénédiction. Dieu leur avait promis quelque chose. Mais 25 ans, mes amis, vous sentez capable d'attendre fidèlement 25 ans une promesse de Dieu, vous ? Moi, je me réfléchis, je me dis, bon, c'est vrai, on vit un peu moins vieux qu'à l'époque d'Abraham. Mais quand même, hein, 25 ans, et ils y croyaient. Ils y croyaient tellement qu'à un moment donné, ils ont cherché à trouver une solution. Et Sarah a proposé à son mari ce qu'on appellerait à notre époque, si je ne me trompe pas, une mère porteuse. Mais la chose semblait avoir fonctionné, mais Dieu a dit non. Ça n'est pas mon problème, ça n'est pas mon propos, ça n'est pas ma volonté. Non, il ne sera pas l'héritier. Aïe. Et maintenant, Abraham va se retrouver devant ces trois hommes et il va tout doucement prendre conscience que c'est quelque chose de capital qui est en train de se passer dans sa vie, puisque Dieu va rappeler la promesse. 25 ans après, il va lui rappeler. Alors bien sûr, vous avez tous eu un petit sourire quand vous avez... Eh oui, je l'ai presque deviné. Quand on a parlé du rire de Sarah. Alors, si ça peut tranquilliser les frères, je vous signale qu'au chapitre 17, verset 17, n'y allez pas, vous le trouverez chez vous, eh bien, on signale aussi qu'Abraham, quand il a reçu la promesse, il a ri. Donc, les deux ont ri. Oui, les deux ont ri, parce que, je ne sais pas si vous recevez des promesses qui vous conviennent toujours, mais quand même 24 ans, 25 ans avant, hein, quand Dieu vous dit « tu vas avoir un héritier », ça fait drôle, hein. Il y a quelque chose de particulier. Humainement parlant, on peut comprendre l'évidence de la difficulté. Et c'est quelque chose de grave. Au point que d'ailleurs Isaac, plus tard, quand il naîtra, selon promesse de Dieu, vous savez ce que veut dire Isaac ? Il a ri. Parce que Isaac, il était porteur dans sa vie plus tard, tout au long de sa vie, il a été porteur de ce qui avait précédé sa venue dans ce monde. Le père et la mère avaient ri. Il faut le savoir. Maintenant, on peut penser beaucoup de choses de cette situation de doute qui va naître un moment dans le cœur de Sarah. Elle est là, elle entend, et elle dit bien les choses. « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir ? Mon mari aussi est un vieillard. » Elle est devant une impossibilité, insurmontable, humainement parlant. Et j'aimerais vous parler du rire de Sarah. La vie de Sarah... À ce moment-là, on connaît le rire, mais ce n'est pas un rire mépris de Dieu. C'est un rire par manque d'espérance. Oh, les psys d'aujourd'hui vous diraient, oui, c'est une crispation psychologique intérieure devant une insuffisance énorme. Enfin bon, laissons passer. Hein. Je comprends le rire de Sarah, le rictus intérieur, mais c'est insurmontable. C'est par manque d'espérance que Sarah vit, et non par mépris de Dieu. Manque d'espérance totale. Elle le décrit bien. Elle n'a plus la force d'y croire. Parce que quand vous aurez cru pendant 25 ans à une promesse de Dieu, vous aurez le droit de juger Sarah. Mais moi, je ne m'en sens pas le droit. Et elle est là maintenant. Ce qui va être extraordinaire, c'est que pour Sarah, il va y avoir une place devant Dieu pour poser ce qui paraît insurmontable. Et là, je trouve que ce qui est formidable dans le récit, c'est la présence extraordinaire de Dieu. Sous cette phrase, « Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis ?» Et là, maintenant, c'est un moment extraordinaire, un moment où l'insurmontable pour Sarah va se trouver brutalement devant elle, et elle va pouvoir se trouver aussi devant Dieu. Vous savez, je suis convaincu que dans nos plus grands moments de doute, il y a une place importante à trouver pour la présence de Dieu. Il peut y avoir des choses insurmontables, mais il y a une place pour le réalisme, en somme. Le réalisme, c'est « moi, je suis vieille, voilà la situation, mon mari est vieux. Et les lois humaines ne nous donnent aucun espoir. Ça, c'est le réalisme. Mais ce réalisme, on va le placer devant Dieu. Et j'aimerais vous dire maintenant qu'il y a un autre exemple d'un doute extraordinaire dans la Bible. C'est aussi une femme. Et ce n'est pas du tout pour régler des comptes avec les femmes, je vous dis ça. Vous savez comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Marie. Je vais vous lire simplement quelques versets dans le premier chapitre de Luc, au verset 34. Un ange paraît à cette femme, cette jeune fille. Elle est fiancée, elle est toute jeune. Et Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ? Je suis fiancée, je n'ai pas d'homme dans ma vie. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils. » Malgré son grand âge, on n'est pas loin des problèmes, hein. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. J'apprécie énormément le moment de doute de Marie. Comment cela se fera-t-il ? Moi, avoir un enfant ? Mais tu sais bien que ce n'est pas possible. Je suis réservée, je suis promise pour mon fiancé, et le temps n'est pas venu. Comment cela est-il possible ? Le doute de Marie, je l'apprécie parce qu'il se rapproche aussi de ce que je viens de décrire de Sarah. Il faut que dans nos moments de doute, Dieu soit invité. Et la façon dont les choses se passent, c'est que Marie accepte de déposer son doute aux pieds de Dieu, par cet ange, et de lui dire, voilà, moi, il y a une impossibilité, comment cela est-il possible ? Dans les deux cas, Dieu va être extraordinaire. Il va se mettre à la portée de celle qui est dans le doute. Il va se mettre à la portée de celui qui est là. Vous savez, dans le doute, il y a des positions qu'on peut trouver facilement dans le monde. Je m'arrête un instant, je reprendrai l'exemple de ces deux femmes tout de suite après. Dans le doute, on peut trouver deux attitudes, notamment dans nos sociétés autour de nous. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont des doutes. Il y a ceux pour qui il y a un déni absolu du doute. Et même quand on voit qu'ils doutent de tout dans leur vie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous leur demandez comment ça va, ils vous disent « tout va bien ». Le déni du doute, mes amis, ça ne vous en guérit pas. Parce que celui qui se trouve dans nos sociétés, dans le doute et qui le dénie, un jour il s'écroule. Oh mais par contre, vous avez une deuxième attitude, une autre. C'est que d'autres se laissent submerger par le doute. Ils se laissent, mais alors, submerger par la difficulté du doute. Et ils perdent espoir. Ils perdent espoir au point que même si quelqu'un un jour leur parle de Dieu, leur dit « tu sais, il y a un Dieu qui pourrait t'aider », s'ils se laissent submerger par le doute et n'en sortent plus, alors ils finissent par penser que Dieu lui-même ne peut rien y faire. Et ça encore, c'est une catastrophe. Voilà deux pensées qui existent dans le monde du doute autour de nous. Il ne faut pas le nier. Et puis il y a une troisième attitude qui est extraordinaire dans le doute, c'est lorsque Dieu est invité. Remarquez que, parce que Dieu a favorisé les circonstances, je l'admets bien, mais dans le cas d'Abraham et Sarah, Dieu a été invité. Dans le cas de Marie, Dieu a été invité dans son doute. Parce qu'elle l'a exprimé devant cet ange, parce qu'elle l'a exprimé devant la présence de Dieu. Et parce que Sarah, qui ne le réalisait peut-être pas bien encore, pouvait exprimer dans la présence de Dieu son doute. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle a nié d'avoir ri, oui, parce qu'elle en était incapable de faire autrement et de surmonter. Mais il y a une chose que j'apprécie, c'est que dans les deux cas, Dieu a une attitude tout à fait comparable. D'abord, il se décrit tel qu'il est. Par des paroles que nous avons lues qui semblent évidentes, à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible. Et dans le cas de Marie, il va même lui prendre comme exemple l'exemple de sa parente, elle qui était appelée la stérile, dont on se moquait, parce que c'était en fait une façon de se moquer d'elle, de l'appeler la stérile. Eh bien, aujourd'hui, elle est dans son sixième mois, elle va donner la vie. Tu vois, Marie, à Dieu, rien n'est impossible. J'apprécie énormément cette situation ou devant le doute extrême, devant les côté insurmontable de la nature humaine et de nos capacités, Dieu se décrit tel qu'il est. Non seulement il va décrire qu'il est à Dieu tout est possible, mais il va aussi avoir cette attitude qui est remarquable, c'est d'être patient et compréhensif. Parce que, après tout, l'ange aurait pu dire, Sarah, tu n'as pas honte d'avoir ri. Nous sommes là, nous allons te juger, parce que c'était... Non, non, l'ange lui dit, Sarah, Sarah, Dieu est grand. Dieu est plus grand que les hommes. Il se décrit d'une façon incroyable. Et à Marie, l'ange dira, à Dieu, rien n'est impossible. Alors là encore, j'apprécie un Dieu qui, quand nous sommes dans le doute, mes amis, parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu n'exauce et ne bénit que les gens qui ont une grande foi ou qui ont la foi. Ben, je bénis Dieu parce que quand nous sommes dans le doute et que nous l'invitons à partager avec nous, parce que nous disons, Seigneur, je doute, il est celui qui est compatissant, patient et qui s'adresse encore à nous. Quelle patience Dieu a avec moi, quelle patience peut avoir Dieu avec chacun de vous. C'est ainsi que dans nos doutes, nous le rencontrons aussi. Et alors, quelle est... Il faut que je fasse attention, mon frère. Hein. Ouh là là. Et alors, quelle est... l'une et l'autre sont dans cette situation. Je bénis Dieu parce qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire. Dieu ne rappelle juste dans les deux cas que ce qu'il est. Il dit tout est possible. Voilà. Mais il manque quelque chose. Pour moi qui suis un homme du 20e, qui a quand même survécu jusqu'au 21e siècle, il manque quelque chose. Seigneur, comment, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Vous savez, ce genre de questions qu'on aime poser à Dieu, je ne sais pas si vous êtes comme ça, on aime bien dire, Seigneur, tu ne pourrais pas m'expliquer comment tu vas faire, d'ailleurs, tiens. Je connais bien des gens qui demandent à Dieu de les bénir et qui lui expliquent même comment il faut qu'ils s'y prennent. Ou alors certains qui disent, Seigneur, je crois que tu peux me bénir, mais je voudrais bien savoir comment tu vas faire. Eh bien, ni dans le cas de Sarah, ni dans le cas de Marie, Dieu n'explique ce qu'il va faire. Il dit la chose. Dans un an, tu auras un enfant. Dans Marie, toi aussi, tu vas avoir l'enfant qui naîtra de toi par l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu ne dit pas ses possibilités et les explique. Il est souverain. Et moi, je suis très heureux de vous dire que Dieu ne vous expliquera pas toujours comment il fait, mais il fera. Et vous n'avez pas le grand copain à qui vous tapez sur l'épaule en disant « Allez, dis-moi ton truc, comment t'arrives à faire ça toi hein ?» Parce que Dieu fera. Et je ne sais pas comment il a fait certaines choses dans ma vie, mais il les a faites. Et c'est la même chose pour nous. C'est le grand questionnement du doute qui est là. Il rappelle ce qu'il est, Dieu rappelle ce qu'il est, et puis il agit. Et je ne comprends toujours rien, et je suis d'ailleurs très rassuré de n'avoir rien compris à la manière dont Dieu s'y est pris parfois dans ma vie. Franchement, je n'aurais pas voulu avoir l'explication. Dieu est bien trop grand pour que je comprenne tout. Hein ? Et c'est comme ça que nous voyons ces deux exemples du doute, où Dieu est invité dans le doute. Au fond, il y a une leçon à retenir. C'est que le principal dans tous nos moments de doute, c'est d'inviter Dieu. Et de ne pas lui dire, non, t'inquiète pas, ça va bien, de tricher. Mais dire, Seigneur, je doute. Je suis devant une impossibilité, je suis devant quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Seigneur, viens voir mon doute. Et Dieu est grand, il vient. Et il donne une certitude, ne t'inquiète pas, je suis avec toi et je m'occupe de toi. Abraham avait quand même de bonnes raisons, lui aussi, d'avoir ri, hein. Je pense, vous voyez, c'est quand même une histoire un peu incroyable. Hein. 99 ans, quand cela est rappelé, il avait 100 ans quand Isaac est né. Vous imaginez la situation du jeune papa? Je vous souhaite les mêmes surprises dans les délivrances du doute que Dieu aura pour vous. Que Dieu soit béni.